Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de lancer un nouveau format pour Dream Team, la Ligue des futurs champions. Et voilà l'idée. Derrière Decathlon, l'équipe Nike, beIN Sport, Mediapro, Adidas, ces gros mastodontes de l'industrie du sport, naissent de nouveaux acteurs, de nouvelles idées de boîtes qui deviendront les champions de demain. Sur un format Pitch-moi ta boîte, je reçois des entrepreneurs ou des responsables de business unit qui dévoilent leurs idées, décortiquent leur marché et partagent leur ambition. Bref, on va construire ensemble une véritable boîte à outils pour entreprendre dans le sport. Bienvenue dans la Ligue des futurs champions, un nouveau format de Dream Team Podcast. Je suis Pierre Moreau et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui un format Ligue des futurs champions avec un champion qui s'est associé avec un champion. Salut Olivier.
Salut Pierre.
Je dis un champion qui s'est associé avec un champion parce que tu t'es associé avec Tony Parker. On t'a vu dans Qui veut être mon associé, on en parlera, mais on va surtout parler de Fly Cup, qui est la raison pour laquelle tu es passé dans cette émission, mais surtout la raison pour laquelle tu es dans cet épisode aujourd'hui de la Ligue des futurs champions. Ce que je te propose, c'est de commencer par les questions un petit peu traditionnelles pour te présenter, pour me dire aussi quelles ont été tes deux, trois expériences les plus significatives avant de lancer Fly Cup, sur lequel on va revenir en détail.
Ok, avec grand plaisir. Merci en tout cas pour l'invitation.
Mais écoute, c'est parti, raconte-nous tout.
Écoute Pierre, moi je suis rennais d'origine, j'ai 35 ans, j'ai fait on va dire un peu toute ma scolarité là-bas. Après je suis parti en école de commerce pour faire des études vraiment liées dans la finance et dans le commerce, c'est ça que je voulais faire initialement. Donc j'étais à l'école de commerce de Rouen qui s'appelle Neoma désormais.
Bien sûr.
Pour me développer sur tout sujet un petit peu, on va dire, business et finance, qui était mon domaine de prédilection initialement. Et suite, en fait, à un voyage aux États-Unis, dans le cadre de mes études, j'avais fait, en fait, à la base, une école de commerce rien que pour ça, parce que je voulais absolument partir dans une université américaine. Mmh. Et en fait, je suis tombé amoureux du pur commerce, de la négo. Parce que en fait là-bas j'avais des cours d'entrepreneurship, j'avais des cours d'expression orale, j'avais des cours de négo qui étaient juste incroyables. Donc je suis vraiment tombé amoureux de ça et en revenant à l'école de commerce à Rouen, j'ai décidé d'arrêter la finance et de me mettre dans l'entrepreneuriat. Et donc c'est pour ça que j'ai fini avec un master en entrepreneuriat en 2013 et j'ai voulu directement me lancer en créant une boîte. Cette boîte n'a pas fonctionné, donc je suis pas allé vraiment très loin dans cette expérience. Et puis après, j'ai été embauché dans un grand groupe d'agroalimentaire et j'ai commencé ma carrière en fait comme ça.
On peut le citer, c'est Coca-Cola.
Exactement. Ouais, exactement.
Je pense que c'est peut-être pas forcément étranger au développement de Fly Cup et peut-être d'ailleurs avec tes premiers clients chez Fly Cup, tu nous en diras un peu plus. Yes. Donc, tu avais eu quand même cette fibre entrepreneuriale assez tôt finalement quand est-ce que tu as compris que tu voulais peut-être faire ça?
Sincèrement, je pense que j'ai eu le déclic quand je suis parti aux États-Unis. Ouais. Après, moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé ce côté un petit peu commerce parce que je me rappelle déjà au lycée, c'était en 2003-2004. Quand j'étais au lycée, en fait, j'avais déjà créé un petit commerce, on va dire, de revente de fringues. J'avais trouvé un site internet à l'époque où le e-commerce se développait. J'avais trouvé un site de e-commerce sur Paris qui vendait des fringues un peu tendance à l'époque. Et moi, en fait, j'avais imprimé les pages de ce site-là. J'avais créé un espèce de catalogue que j'allais présenter aux potes vraiment pendant les récrés, quoi. Et ensuite je prenais les commandes, je les commandais en gros sur le site et puis je vendais ça derrière au lycée. Donc en fait c'était j'adorais un peu ce côté business, ce côté relation, ce côté négo avec le partenaire et tout. Et donc je pense que j'ai déjà aimé cette première expérience là. Et si je remonte un tout petit peu plus loin, je pense que c'est un petit peu une histoire familiale puisque alors c'est pas mon père mais c'est mon grand-père moi qui avait créé des concessions automobiles. Il était parti de zéro, il avait créé ça. Mes oncles et tantes avaient repris ensuite l'affaire, donc j'ai un peu baigné lors de toutes les réunions de famille dans cet esprit un petit peu d'aventure entrepreneuriale. Et puis après je me suis fait moi autour de tout ça et je pense que petit à petit ces expériences là plus mes expériences personnelles m'ont fait arriver à là où j'en suis avec Fly Cup en fait.
Ouais. Quand même, il y a un truc qui transparaît, c'est le côté commercial, négo. Tu l'as dit, tu étais un peu passionné et tu as eu un déclic aussi sur ce truc-là aux États-Unis. Et tu es arrivé chez Coca-Cola, qui est peut-être une des meilleures écoles en termes de négo et de commerce. Qu'est-ce que tu as vraiment appris chez Coq et qui te sert encore aujourd'hui, tous les jours, dans ton métier d'entrepreneur?
Bah, en fait, je pense que c'est ce que tu dis, Pierre. Je pense que l'école, dans ces grands groupes-là, les grands groupes de PGC comme Coca-Cola, qui sont des leaders...
Tu peux dire PGC pour tout le monde.
Pardon, les produits de grande consommation.
Ouais.
Je pense qu'effectivement, la formation commerciale est assez forte. Moi, je sais que j'ai commencé, en fait, n'en étant pas commercial, mais j'ai commencé au siège, dans les équipes, on va dire, commerciales, support au siège. Et j'étais dans une équipe qui s'appelait Stratégique et Business Planning. J'ai commencé à travailler un an là-dedans. Puis ensuite, en fait, j'ai vraiment voulu justement me confronter au commerce et au terrain, comme on dit. Et donc, je suis parti en étant ce qu'on appelle chef de secteur, où j'avais un portefeuille de clients distributeurs sur la région parisienne. Mmh. Et puis, tous les jours, j'allais au quotidien justement revendre les solutions et les produits Coca-Cola. Donc, c'est ça que j'ai fait pendant un an et demi. Et puis ensuite, je suis revenu au siège pour prendre des fonctions un peu plus managériales, toujours dans cette division commerciale, une division qui a pour but vraiment d'améliorer la performance des commerciaux sur le terrain. Donc j'avais un petit peu plusieurs casquettes pour justement faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'efficacité commerciale et de productivité. Mmh. Et donc au travers de toutes ces expériences, à chaque fois j'ai eu aussi deux choses hyper importantes. Une formation continue, donc j'avais régulièrement des formations pour me former sur les techniques de vente, sur les techniques de négo, sur les techniques managériales également. Donc ça permet d'apprendre beaucoup, en plus d'être confronté à la vraie vie, j'ai envie de dire, quotidiennement. Et le deuxième élément qui m'a énormément marqué, en fait, c'est les managers que j'ai eu. J'ai eu des managers exceptionnels à chaque fois, tant sur le plan pro, c'est-à-dire qui étaient très bons techniquement sur leur sujet, mais qui étaient aussi très bons d'un point de vue humain et managérial. Et ça, je pense que ça a peut-être été, 60-75% de l'expertise que j'ai pu acquérir, en plus des formations continues. Donc j'ai eu vraiment de la chance grâce à ça et je les salue parce que c'est aussi grâce à eux que je peux être là aujourd'hui.
Ouais, je pense que c'est important de bien souligner qu'être entrepreneur, c'est avant tout, il y a différents volets dans l'entrepreneuriat, mais c'est avant tout vendre et faire en sorte d'avoir des clients et la compétence commerciale, elle est plus que clé. On fait souvent l'apologie des profils tech qui, et c'est compréhensible, hein, qui développent des solutions qui permettent de scaler les profils opérations, mais en fait les profils commerciaux sont plus que clés dans une entreprise et c'est bien aussi de redorer le blason de ces trajectoires qui ne sont pas forcément, notamment en France, hyper valorisées. Je ne sais pas ce que tu penses.
C'est intéressant, c'est exactement ce que j'allais te dire. Ouais. Tu sais que moi, donc sorti d'école de commerce en 2013, j'ai commencé justement effectivement chez Coca-Cola en 2013-2014 dans mon premier job. Et après, quand je suis passé en 2015 commercial, donc j'étais ce qu'on appelle un commercial plus qu'on a de classique, si je peux dire. Et en fait, quand je discutais un peu avec d'autres gens d'école, etc., quand tu dis que tu es chef de secteur et que tu as ta bagnole et que tu vas avoir des clients dans des zones industrielles avec des entrepôts, etc., en fait, c'est pas qu'on te rionnait, mais on dénigre un peu cette fonction commerciale.
Ouais.
Tu sais, un peu, voilà, tu sors de prépa, tu sors d'école de commerce, on te vend des jobs de rêve et des postes hyper, hyper importants. Et puis, en fait, moi, je me suis toujours dit qu'il fallait démarrer justement par ces jobs-là pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, justement, pouvoir passer sur d'autres jobs. Et j'ai eu la chance, encore une fois, d'avoir un manager dès le départ qui m'a donné cette trajectoire-là. Et ça a été pour moi ultra précieux parce que c'est des compétences que tu acquiers pas autrement, en fait, tu vois, en étant sur le terrain et confronté aux clients. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Et aux États-Unis, je voyais tout l'inverse. C'est-à-dire que ces postes de commerciaux, responsables commerciaux, directeurs commerciaux étaient carrément, mais beaucoup plus valorisés. Et du coup, moi, j'avais un peu des, des étoiles dans les yeux quand j'étais là-bas et que je voyais ça. Donc, j'ai voulu faire la même chose ici en France.
Ouais, super. Tu as fait un court passage pas si court en tant que consultant en strat et en transfo chez Frog Consulting. Mmh. Pourquoi, du coup, tu as fait ce choix de quitter Coca et d'aller vers cette typologie de métier?
Ouais, non, mais en fait, ça, je l'ai un petit peu fait en parallèle de FlyCup parce que j'ai quitté Coca-Cola pour monter FlyCup globalement. Et en fait, j'ai été ma dernière expérience chez Coca-Cola, j'avais du coup plusieurs services que je manageais, dont des services autour de la transformation, la réorganisation, etc. Et donc, après, quand j'ai quitté justement Coca pour monter FlyCup, on m'a sollicité pour des missions pour que je puisse aider certaines startups et certaines boîtes pour faire ça sur des missions très ponctuelles, assez courtes. Et donc du coup, je me suis dit c'est aussi hyper intéressant pour moi, pour le réseau également, pour mon expérience. Donc j'ai fait ça à côté en parallèle. Mais la vraie raison pour laquelle j'ai effectivement quitté le groupe, c'était vraiment pour monter FlyCup. Et ça, je le mène depuis maintenant 2019 et c'est quelque chose qui me passionne.
Ouais, super. Écoute, on aborde le sujet FlyCup. Qu'est-ce que c'est FlyCup et pourquoi ça a besoin d'exister?
Ouais, bah écoute, FlyCup, en fait, ça a besoin d'exister. C'est un bon mot, tu dis, parce que on doit, souvent, quand on crée un business, une solution, il faut que ça réponde à un besoin. Nous, je pense qu'on répond clairement à un besoin. Et la particularité de FlyCup, c'est peut-être que ce besoin n'avait pas été identifié. Et je pense que ça a été toute la dureté aussi un peu du démarrage de FlyCup. C'est que un client un jour m'a dit « Olivier, t'arrives un peu trop tôt en 2019 sur ces sujets-là. » Pourquoi ? Parce que nous, en fait, avec FlyCup, la volonté qu'on a, c'est de remplacer les emballages existants avec des solutions packaging innovantes, pratiques et durables qui permettent deux choses très concrètes. La première chose, c'est quand vous êtes dans un événement, dans un stade ou même en vente à emporter, vous ayez la possibilité de tenir, transporter et consommer votre menu dans un seul et unique emballage, c'est-à-dire à une main. Et donc, l'idée de FlyCup, c'est de remplacer les emballages pour n'en avoir plus qu'un seul, avoir tout dans une main et du coup, avoir toujours une main libre pour pouvoir manger facilement, pour pouvoir se déplacer confortablement et surtout, c'est pour pouvoir profiter du moment. L'histoire de FlyCup, elle est née dans un événement, dans un festival. On était Wheel of Green avec un de mes cofondateurs en 2016. Et en fait, on profitait des concerts, on profitait vraiment du moment. Et arrive l'instant où il faut aller justement déjeuner entre midi et deux. Donc, on y va, on fait la queue, on prend notre burger, notre frite, notre boisson. Et en fait, on se retourne et on a les deux mains prises. On est clairement en galère. On ne peut pas se déplacer, on ne peut pas poser la nourriture par terre. En plus, c'était l'année où il y avait eu de la pluie énormément, donc c'était assez compliqué. Il y avait pas de banc, il n'y avait pas de table. Bref, en fait, on était vraiment dans un moment où on s'est dit, en fait, c'est pas du tout pratique. C'est dommage parce qu'on est en train de passer un bon moment et là, ça casse un peu tout. Et donc, on a eu cette idée de se dire, mais en fait, il n'y a pas que les festivals, il y a aussi les stades, il y a les grands événements sportifs et il y a aussi clairement tout ce qui est food truck et vente à emporter. Où il y a cette problématique de praticité quand on mange de manière nomade.
Ouais.
L'histoire est partie de là et on s'est dit, créons un produit plus pratique pour justement passer un moment plus sympa et créons aussi un produit plus écologique. Et qui dit plus écologique dit un emballage qui se veut dans l'ensemble de la chaîne de valeur de fabrication et de sourcing le plus vertueux possible. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec une version, une gamme recyclable et une gamme réutilisable aujourd'hui.
Ouais. Le lien avec le sport a été enfin fait parce que du coup, mes chers auditeurs et auditrices, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, cet Olivier? Pourquoi on parle pas de sport aujourd'hui? En effet, on parle de sport parce que, évidemment, un de tes plus gros marchés, c'est le marché de la venue sportive, des stades, tu l'as dit, des événements sportifs. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer, en effet, quels sont tes différents marchés, quelles sont tes cibles? C'est un marché de combien ? Est-ce que quand tu t'es lancé, tu t'es dit, OK, bon, le marché de l'événement sportif, c'est 12 milliards côté packaging, donc je fonce, il y a une opportunité. Comment tu as finalement, t'es passé de l'intuition de dire, mince, en tant qu'usager, c'est pas bon, à il y a une opportunité business parce qu'il y a un vrai gros marché ?
Ouais, écoute, je pense sincèrement que ça, c'est la confrontation au client qui fait qu'aujourd'hui, on en est arrivé là. Il y a toujours une intuition, il y a toujours une ambition et la vision de ton entreprise qui te dit, voilà, demain, ou dans 10 ans, je vois FlyCup ici. Je pense que moi, je me suis confronté très tôt, en fait, aux besoins, justement, t'en parlais tout à l'heure, des clients. Et c'est vrai que initialement, quand on a créé FlyCup et quand je l'ai lancé, je suis allé très tôt voir les restaurateurs, les food trucks, et j'ai tout de suite pris la température. Et ce que j'ai fait, contrairement à ce que j'avais appris à l'école, c'est-à-dire de faire un business plan, de travailler la stratégie, de travailler ton SWOT, etc., je l'avais tellement fait, en fait, sur des idées de business passées que sur ce business-là, avec laquelle je me suis dit, franchement, j'ai la flemme, je vais pas faire comme d'habitude, on va bien voir si ça fonctionne. Je crée un produit très rapidement, j'ai créé un prototype vraiment un peu à l'arrache, mais j'ai créé un premier truc, et puis je suis allé voir des clients avec ça. Et en étant allé voir des clients avec ça, je suis allé voir à la fois les clients restaurateurs, food truck, mais aussi les consommateurs, les clients finaux qui utiliseraient potentiellement les FlyCup. Et je me suis confronté tout de suite à ça, ce qui m'a permis vraiment de connaître, un, l'intérêt qu'il y avait pour la solution, deux, effectivement, l'intérêt marché, un peu plus business, et trois, ce qui est hyper important chez FlyCup aussi, c'est que l'utilisateur final sente lui aussi un intérêt pour la solution. Parce que s'il n'en a pas besoin, le client restaurateur, qu'il soit dans une vente à emporter, dans un food truck ou dans un grand événement, il ne va pas l'utiliser. Il n'y a pas l'acheter. Ouais. Et donc, moi, je pense que le sujet, il a été de se confronter très rapidement. Et en fait, quand je me suis confronté très rapidement à la fois à ces différents marchés que j'avais en tête, je m'étais toujours dit, FlyCup, il va y avoir le segment vente à emporter, le segment plus food chain avec les grandes chaînes de restauration, le segment sport, le segment entertainment. Et en fait, en me confrontant un petit peu à tout ça, j'ai pu très rapidement voir où est-ce qu'il y avait le plus d'impact et d'intérêt. Et là, c'était dans le sport et l'entertainment. Ouais.
Okay.
Donc, je me suis engouffré là-dedans et c'est aujourd'hui pour ça que c'est le business le plus important chez nous en termes de chiffre d'affaires et de développement.
Super enseignement, encore une fois. Tout de suite, aller se confronter aux clients. Les études de marché, elles ne sont pas forcément importantes, en tout cas au début. Peut-être que c'est important quand on peut-être veut lever des fonds, quand on va voir une banque. Mais super partage.
Et d'ailleurs, la petite anecdote, Pierre, c'est que. Alors peut-être que certains entrepreneurs vont se reconnaître, mais on a toujours peur en fait de dévoiler son idée. Tu vois, on a toujours peur de dire voilà mon idée, de la montrer, de peur de se la faire piquer, etc. Et l'anecdote justement à cette époque-là, c'est que moi je suis allé, donc j'avais créé un proto chez moi, j'étais allé voir des clients et en fait pour vraiment qu'ils sous-estiment aussi cette solution et qu'ils se disent pas, punaise, c'est un truc super cool, je vais voir si ça existe ailleurs, parce que j'avais vraiment peur de ça. On s'était fait passer avec Thomas, le cofondateur, on s'était fait passer pour des étudiants qui avaient un projet de mi-année, devoir rendre à l'école. Et vraiment, on l'avait présenté comme ça, on était deux jeunes étudiants et qu'on avait un truc qu'on devait absolument faire, qui nous était obligé, donc on avait solliciter justement ce produit-là pour ça. Et en fait, on avait eu peur que avec ce produit-là, les gens se disent « putain, je vais le faire tout de suite de mon côté ». Et du coup, voilà, oui, on s'était confronté, mais avec une petite crainte quand même de se dire « punaise, j'espère qu'on va pas nous piquer l'idée ». Et du coup, on l'avait un petit peu joué comme ça. Donc, c'est assez marrant d'y repenser maintenant, mais faut absolument se confronter aux clients. Je pense que c'est la clé aussi de la bonne compréhension du business.
Et puis se faire passer pour un client, ça marche quand on vieillit pas comme toi. Mais ça marche pas toujours à tous les âges. Comment ça gagne de l'argent, FlyCup? Parce que il y a un truc qui est évident, tu vends éventuellement des packagings, mais tu as d'autres modalités de monétisation de ce packaging. Tu peux nous expliquer?
Ouais, bien sûr, Pierre. Écoute, nous on a tout de suite en fait, et je repense, t'en parlais un petit peu à l'émission tout à l'heure. Dans l'émission, ceux qui l'ont vu ou ceux qui ne l'ont pas vu, la première question qu'on pose, c'est Eric Larchevêque qui, avec son ton un peu provocateur, mais toujours très juste, qui me dit, en fait, tu es en train de nous vendre des bouts de carton pliables. Quoi. Et en fait, cette remarque, elle a été hyper intéressante parce que moi, c'est ce que j'ai toujours entendu, entre guillemets, quand j'ai vendu FlyCup, c'est que oui, FlyCup, ce sont des packagings. Alors certes, on a créé une innovation produit, j'ai envie de dire, parce que ces produits n'existaient pas sur le marché. Donc, on a créé des nouveaux produits qui finalement sont l'association de plusieurs produits existants pour ne former qu'un seul et même produit. Donc, c'est ça un petit peu l'innovation produit de FlyCup. Mais c'est aussi avant tout une innovation d'usage. On vient changer l'usage de consommation. On vient aussi changer l'usage pour l'entreprise de catering, pour le restaurateur. Et donc, on vient justement créer un usage qui est j'ai envie de dire, la chose aussi la plus percutante et la plus importante pour nous. Et en fait, ce qu'on vend finalement avec FlyCup, j'ai tendance à dire qu'on vend pas vraiment un packaging, mais on vend une expérience. Et aujourd'hui, l'ensemble des, c'est un peu bateau peut-être de dire ça, mais l'ensemble des stades, des arénas, des festivals qui aujourd'hui achètent FlyCup, achètent aussi FlyCup pour l'expérience spectateur. On en parle beaucoup dans le domaine du sport, la fan expérience que ça va apporter aujourd'hui. Et cette brique fan expérience, on l'a beaucoup utilisée dans le monde du sport et l'entertainment sur les écrans, sur des activations, etc. Et très peu sur la partie F&B, sur la partie food and beverage. Et donc, nous, on apporte cette brief fan experience sur la partie food and beverage. Donc, ça, c'est déjà un sujet qui est assez fort parce que c'est ce qui permet effectivement de monétiser ce produit. Donc, un, pour répondre à ta question, on vend du packaging. Et derrière, en fait, on va créer aussi un business autour de ça. C'est-à-dire que le packaging, il a une visibilité qu'il apporte à la marque et à l'événement. Et donc, nous, on vient proposer justement à l'événement, au club, à la salle de spectacle ou à la marque de venir capturer justement des nouveaux, on va dire, des nouveaux spectateurs, des nouveaux clients à travers un nouvel espace de visibilité. Ouais. Cet espace de visibilité, il est hyper intéressant parce qu'il est, nouveau, il est mobile, il est dans la main des spectateurs, il est hyper visible. Donc, ça permet vraiment pour une marque d'aller chercher une visibilité additionnelle qui est hyper importante. Ouais. Donc, on vient monétiser ça. Et le troisième élément qu'on monétise, c'est les activations digitales que l'on propose sur les FlyCup. On cherche justement à passer d'un produit 100% physique à un produit un petit peu aussi digital. Donc, on vient créer les deux dans cette expérience-là. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des activations autour du FlyCup à travers un QR code que l'on imprime et que l'on pose sur nos produits. Mmh. Proposer justement aux fans, aux spectateurs de scanner un QR code, de jouer à un jeu, à une mécanique très simple et permettre avec la marque de proposer des rewards assez intéressants dans l'enceinte du stade, après le stade et créer du coup un lien hyper fort entre le fan, la marque et l'événement.
Ouais. Olivier, c'est pas très difficile à copier tout ça?
Écoute, alors, bah, non, mais t'as raison.
Là, je suis provoque.
Ouais, non, mais t'as raison, c'est toujours la question aussi, et j'en parlais justement juste avant dans ta question précédente. Nous, ce qu'on fait pour se protéger, hein, comme on dit, bon, déjà, c'est qu'on s'est protégé de manière juridique. Mm-hmm. On a ce qu'on appelle des dessins et modèles, donc une protection industrielle, dessins et modèles qui protègent la forme, le design, la découpe du produit, et des brevets là, qu'on est en train de déposer sur notre nouvelle gamme. Donc, première chose déjà, minimum, si je puis dire, syndical, c'est de se protéger de manière juridique.
Tu protèges la propriété intellectuelle.
Exactement. Ça, on l'a fait en France, en Europe et aussi à l'étranger. Première chose. Deuxième chose, après, moi, je suis convaincu que la concurrence aussi a du bon, mais surtout, je suis convaincu qu'il faut sans cesse innover, apporter de nouvelles solutions pour toujours se démarquer et avoir un temps d'avance. Et c'est ma conviction et c'est du coup ce que j'essaye de faire à chaque fois avec FlyCup. On est parti d'un produit, là on est à plus de 7 produits qu'on a dans notre gamme, on est encore en train de réfléchir à d'autres produits, et ça, bah, c'est à la fois avec la vision entre guillemets qu'on a un petit peu maintenant du marché, mais aussi en se confrontant tout le temps aux clients. Moi je vais toujours, et ça fait partie du troisième élément qui nous permet de nous démarquer, c'est le service qu'on apporte aux clients. On apporte un service, comme je te le disais, pas que sur le produit, mais aussi sur le marketing, et aussi sur l'activation digitale. Et quand on travaille avec un client, on y va en fait, de manière opérationnelle, on va sur place, on forme aussi les équipes à l'utilisation de nos produits, à la manière dont ils peuvent aussi le revendre au client final quand un fan qui vient prendre un menu en buvette. Donc on est vraiment là dans l'accompagnement et ça nous permet toujours d'avoir un regard un peu, on va dire, extérieur sur le produit et de se dire, ah ouais, là il y a un truc à faire, là il faut qu'on améliore ça, là il faut qu'on crée un autre produit, etc. Voilà un petit peu comment on essaie de se démarquer avec la partie juridique, la partie inno et puis la partie service qu'on apporte au client.
Ouais. Et puis la partie commerciale, quand tu prends un petit peu d'avance sur tes concurrents, que tu loques les potentiels clients, bah, c'est plus difficile pour le concurrent qui vient après de casser les deals que tu as construits avec eux en amont. Et en plus, et ça me permet d'arriver vers notre ami Tony Parker, ouais. Et l'expérience avec qui veut être mon associé. Là, tu t'es associé avec Tony Parker, qui a forcément un énorme réseau dans le monde du sport, notamment en particulier aux États-Unis. Tu peux nous expliquer un petit peu déjà cette démarche d'aller vers cette émission et qu'est-ce qui s'est passé depuis depuis ce deal, depuis ce serrage de main entre toi et Tony Parker en termes commerciaux et développement de la boîte.
Ouais, écoute, pourquoi cette émission? En fait, moi je suis fan de cette émission. Non, mais c'est vrai, tu vois, depuis la première saison, je trouve que, en fait, je me suis toujours vu pitcher dans cette émission. Avec
c'est toi. Drôle.
Mais vraiment, tu vois, et j'ai plein de potes à chaque fois qui me disaient, mais Olivier, tu devrais tellement, je te vois tellement dans cette émission, etc. Et du coup, c'est vrai que ça m'est trotté dans la tête depuis un petit moment. Et j'avais postulé pour la saison 3 à l'émission et j'avais pas été pris.
Ouais.
Donc voilà, donc je trouvais ça un peu dommage. Du coup, l'année d'après, pour la saison 4, j'ai une journaliste qui m'a contacté. On a fait un premier call, une visio. Ensuite, elle m'a dit, écoute, c'est cool, il y a un truc sympa à faire. Postule en ligne de manière classique et on va reprendre le process. Et donc, j'ai postulé en ligne. On a refait tout le process de sélection qui est assez long, assez costaud. Et puis, au final, j'ai été pris, tu vois. Au final, j'ai été pris. Donc, c'est un peu la leçon aussi, moi, que je retiens et qui est, je pense, inhérente à tout entrepreneuriat, à tout entrepreneur. Et en tout cas, c'est super, super, j'ai envie de dire, significatif chez moi, chez FlyCup, c'est ne rien lâcher, quoi. C'est vraiment ne rien lâcher, que ce soit dans les clients. Il y a des clients qu'on signe aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on les travaille, tu vois. Donc là, c'est pareil. Je m'étais dit, écoute, lâche pas, retente l'année prochaine. Et puis, ça s'est fait, quoi. Et ça s'est fait. Et j'ai eu de la chance parce qu'en plus, c'était l'année où il y avait Tony Parker.
Ouais, ouais.
Donc, j'ai envie de dire, match. C'est normal pour un bien, ouais. Exactement. Ouais. Et puis écoute, ça s'est fait avec Tony Parker. Moi, j'ai eu un super bon feeling et je pense que lui aussi, au-delà du produit, du marché qui lui parle forcément énormément, il y a eu un match comme tu viens de dire. Et et après l'émission s'est terminée, donc du coup, moi je suis passé le 17 janvier, j'étais passé sur le plateau en octobre. Et depuis, depuis on discute beaucoup avec Tony et ses équipes, bien évidemment. Il a un agenda de fou, donc on peut pas non plus se voir tout le temps. Mais non, écoute, on s'est encore vu la semaine dernière. On travaille sur la partie, on va dire justement un peu business, sur quoi il peut nous accompagner, comment il va pouvoir nous ouvrir des portes, etc. Et son réseau. Donc ça, c'est les gros sujets du moment. Ouais. Et en parallèle, ce qu'on essaie de finaliser, mais ça c'est l'autre côté, c'est le plus côté, on va dire, un peu avocat, deal, c'est de finir les contours un petit peu de ce qu'on s'est dit lors de l'émission et de finaliser juridiquement aussi la partie contractuelle.
Et ça, du coup, c'est en adéquation avec ce que vous avez dit pendant l'émission?
Voilà, exactement.
Okay.
Non, franchement, il n'y a pas eu de... Tu sais, il n'y a pas eu de renégo de part et d'autre. On s'est tapé dans la main. Alors, c'est vrai qu'après, tu peux avoir des renégos ou des non-deals. Mais je pense que nous, on avait déjà trouvé le truc lors de l'émission. Il n'était pas sujet forcément d'y repenser. Et puis, comme tu disais, hein, je pense que tout en tout cas, moi, c'est pour ça aussi que j'ai accepté l'offre de Tony. C'était de me dire, on a un business qui est complètement corrélé avec son réseau et son activité, son expérience. Il va pouvoir nous apporter énormément en termes d'expertise, énormément en termes de réseau, énormément aussi en termes de visibilité. Franchement, le feeling est là, allons-y, quoi. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. Franchement, on a des superbes relations et on est en train de construire un petit peu, j'imagine, la relation future. Donc, que du positif depuis l'émission.
Et du coup, excuse-moi, je suis un peu curieux. Un Tony Parker, il est hands-on sur les sujets, les meetings, ou comme tu dis, il a une équipe, et dans son équipe, c'est quoi? Il y a un financier, il y a un mec marketeur, c'est quoi un peu? Il est entouré de qui, ce Tipeee? Puisque c'est plus Duncan et Ginobili, maintenant c'est qui?
Ouais, écoute, non, il a bien sûr une équipe. Hein. Tu sais qu'au-delà des startups dans lesquelles il investit ou il a investi pendant l'émission, il a aussi d'autres grosses activités avec son groupe Infinity Group, Infinity Nine Group, pardon. Donc il a. Ouais. Il a une station de ski, exactement, il a des vignobles, etc. Donc il a des gros sujets et forcément il peut pas les gérer tout seul, donc il a une équipe avec lui, un responsable de toute sa partie invest avec qui du coup moi je suis en discussion, une responsable justement comme événementiel, etc. Avec qui on discute aussi, il a des équipes plus opérationnelles. Donc non, il a une grosse core team autour de lui. Et pour le sujet FlyCup plus particulièrement, Nous, on a un groupe WhatsApp avec justement son directeur d'investissement et Tony et moi. Ça permet d'avoir des échanges parfois un peu plus rapides, plus courts. Et puis, certains dossiers, je le gère avec son directeur d'investissement. Et les autres dossiers...
Un petit coup de fil.
Ouais, excuse-moi. Et les autres dossiers, on le gère directement avec lui. Quand on a besoin de justement... de parler de son réseau, etc., c'est avec lui. Quand on a besoin, tu vois, il est venu sur un événement la semaine dernière avec moi et l'équipe FlyCup, c'était avec lui. Donc, il est super ouvert, il est toujours très réactif, malgré son rythme de vie qui est assez incroyable. Ça, j'apprécie beaucoup aussi. Et puis, alors après, on aimerait toujours que ça aille parfois un peu plus vite, mais je comprends aussi tout ce qu'il a à faire. Et donc, du coup, on arrive un petit peu à trouver une adéquation avec ce mode de communication qu'on a.
Ouais. Aujourd'hui, FlyCup, c'est quoi un peu les grands agrégats économiques, financiers et vous êtes dit quoi avec Tipeee à horizon de 3, 4 ans, 5 ans?
Ouais, écoute, c'est un peu ce que je disais dans l'émission, tu sais, c'est que c'est un peu, tu sais, quand tu crées une boîte, un rêve, t'as ton ambition, ta vision, et puis t'as cette petite étoile, ce petit dream et tout. Moi, quand j'ai créé FlyCup, je me suis toujours dit, FlyCup, demain, ça sera aux États-Unis. Tu vois, ce sera en NBA, ce sera en NFL. Je vois tellement ce concept-là dans les salles de basket et tout. Et donc, du coup, je me dis, c'est quand même les États-Unis, le temple un petit peu du snacking, de la fan expérience, de l'événementiel. Ouais. Donc, FlyCup, ça matche complètement avec ça. Donc, c'est vrai que s'il y a un alignement qui se fait aujourd'hui avec FlyCup en bas, les États-Unis en haut et Tipeee au milieu, c'est justement incroyable. Mm-hmm. Et c'est grâce à l'émission que ça aura pu être mis en place. Donc franchement, pour ça, je vis juste en ce moment pas un rêve, tu vois, mais je trouve qu'il y a un alignement des planètes qui est assez fort. Mm-hmm. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'avec Tony, on puisse s'exporter à l'international. Bien sûr, idéalement aux États-Unis. Mais bon, là, on continue, nous, vachement à sillonner le territoire français. On a encore, aujourd'hui, on est 90% de notre chiffre d'affaires, il est fait sur la partie sport. Principalement dans le foot. Donc voilà, on a presque deux tiers des clubs de foot en France, sur la Ligue 1 et la Ligue 2. Il faut qu'on aille chercher les autres. Il faut qu'on aille chercher plus de clubs de rugby, plus de clubs de basket également. Donc, on doit encore faire beaucoup sur cette partie sport en France et toute la partie entertainment avec les arénas et les festivals qu'on est en train de, justement, on se développe vachement là-dessus. Donc, ça, c'est vraiment les key priorities aujourd'hui en termes de développement business. Mm-hmm. Consolider ce qu'on est en train de faire en France et puis aller chercher des opportunités dès maintenant à l'international. Mais cette structuration de l'international, elle se fera, je pense, d'ici surtout un an, deux ans, quand on aura bien consolidé tout le marché français.
Ouais, on est tous les deux un peu pressés par le temps. Je te pose quand même mes deux dernières questions, si ça te va.
Je t'en prie, avec plaisir.
Quelle est l'actualité de l'écosystème sport qui a attiré ton attention récemment?
Écoute, c'est forcément c'est les Jeux Olympiques. Hein. C'est une actualité qui...
Oui, voilà, c'est une grosse actu. Alors souvent, je demande l'actualité assez sport business, tu vois, l'écosystème dans lequel tu es. Mais sinon, poursuivons sur les Jeux. Qu'est-ce qui, en particulier sur les Jeux, t'a attiré ton attention?
Écoute, moi, c'est toute l'émulation qui est en train de prendre là, autour des Jeux Olympiques. L'opportunité est incroyable que ça en termes de rayonnement pour la France et pour le sport français. Et du coup, indéniablement pour toutes les startups français. Donc, il y a un écosystème qui s'est créé déjà depuis un moment en France sur le sport et la tech. C'est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Aujourd'hui, nous, on est basé, FlyCup, l'équipe est basée à Marseille. On est aussi en train de structurer ce réseau de sport et d'impact sur l'écosystème marseillais. Et donc, je pense que les Jeux Olympiques amènent justement toute cette dynamique-là. Et donc, les thèmes d'actualité, effectivement, qui me marquent autour de ça, c'est tout le développement du sport, de la tech et de l'impact. Et c'est ce qu'on est en train, nous, de mettre en place sur Marseille. Donc, le relais de la flamme démarre à Marseille, en plus, le 8 mai. Donc, nous, on est hyper chaud, justement, pour tous ces événements et pour tout ce dynamisme que ça va prendre. Et on espère clairement que FlyCup, on pourra être présent au JO avec nos produits pour ravir tous les fans et les supporters.
Il y a les épreuves de voile aussi à Marseille. Et peut-être qu'il y aura une demi-finale de Ligue Europa entre Marseille et Liverpool le 9 mai.
C'est très beau. Ce serait beau. En plus, on est bien présent au stade de l'Olympique de Marseille. Donc, ce serait incroyable qu'on puisse aussi vivre ces moments-là. Donc,
ouais. Super. Dernière question, est-ce que tu pourrais me citer une personne ou deux que tu aimerais entendre sur Dream Team et donc avec qui tu mettras en relation, bien évidemment, suis mon regard.
Moi, je vais te dire une personne, on en a un petit peu parlé, Tony Parker.
Bah ouais, mais bon.
Je vais essayer de te faire une passe D, comme on dit, Pierre.
Grave. Bah écoute, avec grand plaisir. Tu parlais de l'écosystème marseillais et du développement de l'écosystème sport tech marseillais. Je suppose aussi que tu as des confrères et consoeurs qui développent depuis Marseille pas mal de choses. Ouais. J'avais eu Guillaume Sarfati qui vit sur Marseille, ouais, de Act for Sport, que tu, ouais, connais peut-être.
Ouais, bien sûr.
Mais en effet, ça bouge pas mal par chez vous, comme on,
ouais,
dit.
Ouais, ça bouge pas mal. Il y en a d'autres. Hein. Il y a The Draft qui est un incubateur justement un petit peu de tout ce qui est sport et impact. Il y a un vrai sujet autour de l'impact sur Marseille parce que Marseille, c'est la mer, tu parlais de la voile, les JO, c'est aussi les montagnes, c'est les calanques, donc il y a un vrai environnement ici qu'on a envie de préserver, et ça prend de plus en plus d'importance justement avec les nouvelles mentalités, avec les nouvelles réglementations, et puis avec aussi, j'en parlais encore, les Jeux Olympiques. Donc il y a tout cet écosystème, pas que tech, mais aussi impact, et on est en train de connecter un petit peu tout ça, parce qu'il y a énormément à faire. Et on espère que ça va permettre justement de faire valoir un petit peu toutes ces startups et toutes ces entreprises qui bossent là-dedans. Donc il y a beaucoup à faire, mais on a beaucoup d'ambition et je pense qu'il y a une belle histoire à raconter, quoi.
Cool. Merci infiniment, Olivier. J'oublie pas ta proposition
on s'en reparle.
On se dit à très vite.
Bon courage.
Ciao.
Allez, ciao. Merci encore.
Salut. Merci d'avoir écouté Dream Team, j'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires, à partager les épisodes en me taguant et bien sûr, à me suggérer des invités. Pour amener le podcast le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Encore merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous à la prochaine causerie.